Deuxième partie, chapitre 2. Ainsi passaient les journées. Christophe reprenait ses forces. La bonté lourde mais affectueuse de Brown, le calme de la maison, la régularité reposante de cette vie domestique, le régime de nourriture singulièrement abondante, à la mode germanique, restauraient son robuste tempérament. La santé physique était rétablie, mais la machine morale était toujours malade. La vigueur renaissante ne faisait qu'accentuer le désarroi de l'esprit qui ne parvenait pas à retrouver son équilibre comme une barque mal lestée qui sursaute au moindre choc. Son isolement était profond. Il ne pouvait avoir aucune intimité intellectuelle avec Brown. Ses rapports avec Anna se réduisaient presque aux saluts échangés le matin et le soir. Ses relations avec ses élèves étaient plutôt hostiles, car il leur cachait mal que ce qu'ils auraient eu de mieux à faire, c'était de ne plus faire de musique. Il ne connaissait personne. La faute n'en était pas uniquement à lui, qui, depuis son deuil, se terrait dans son coin. On le tenait à l'écart. Il était dans une vieille ville, pleine d'intelligence et de force, mais d'orgueil patricien, renfermé en soi et satisfait de soi. Une aristocratie bourgeoise qui avait le goût du travail et de la haute culture, mais étroite, piétiste, tranquillement convaincue de sa supériorité et de celle de la cité, se complaisait à son isolement familial, d'antiques familles aux vastes ramifications. Chaque famille avait son jour de réunion pour les siens. Pour le reste, elle s'entr'ouvrait à peine. Ces puissantes maisons, aux fortunes séculaires, n'éprouvaient nul besoin de montrer leurs richesses. Elles se connaissaient, c'était assez. L'opinion des autres ne comptait point. On voyait des millionnaires, mis comme des petits bourgeois, et parlant leur dialecte rauque aux expressions savoureuses, aller consciencieusement à leur bureau tous les jours de leur vie, même à l'âge où les plus laborieux s'accordent le droit du repos. Leurs femmes s'enorgueillissaient de leur science domestique. Point de dot donné aux filles. Les riches laissaient leurs enfants refaire à leur tour le dur apprentissage qu'eux-mêmes ils avaient fait. Une stricte économie pour la vie journalière, mais un emploi très noble de ces grandes fortunes à des collections d'art, à des galeries de tableaux, à des œuvres sociales. Des dons énormes et continuels, presque toujours anonymes, pour des fondations charitables, pour l'enrichissement des musées. Un mélange de grandeur et de ridicule, également d'un autre âge. Ce monde, pour qui le reste du monde ne semblait pas exister, bien qu'il le connût fort bien, par la pratique des affaires, par ses relations étendues, par les longs et lointains voyages d'études auxquels ils obligeaient leur fils, ce monde, pour qui une grande renommée, une célébrité étrangère ne comptait qu'à partir du jour où elle s'était fait accueillir et reconnaître par lui, exerçait sur lui-même la plus rigoureuse des disciplines. Tous se tenaient et tous se surveillaient. Il en était résulté une conscience collective qui recouvrait les différences individuelles, plus accusées qu'ailleurs entre ces rudes personnalités, sous le voile de l'uniformité religieuse et morale. Tout le monde pratiquait, tout le monde croyait. Pas un n'avait un doute, ou n'en voulait convenir. Impossible de se rendre compte de ce qui se passait au fond de ces âmes, qui se fermaient d'autant plus hermétiquement au regard qu'elles se savaient environnées d'une surveillance étroite et que chacun s'arrogeait le droit de regarder dans la conscience d'autrui. On disait que même ceux qui étaient sortis du pays, aussitôt qu'ils y remettaient les pieds, étaient ressaisis par les traditions, les habitudes, l'atmosphère de la ville. Les plus incroyants étaient aussitôt contraints de pratiquer et de croire. Ne pas croire leur eût semblé contre nature. Ne pas croire était une classe inférieure qui avait de mauvaises manières. Il n'était pas admis qu'un homme de leur monde se dérobât aux devoirs religieux. Qui ne pratiquait pas se mettait en dehors de sa classe et n'y était plus reçu. Le poids de cette discipline n'avait pas encore paru suffisant. Ces hommes ne se trouvaient pas assez liés dans leur caste. À l'intérieur de ce grand Verein, ils avaient formé une multitude de petits Vereins afin de se ligoter tout à fait. On en comptait plusieurs centaines, et leur nombre augmentait chaque année. Il y en avait pour tout, pour la philanthropie, pour les œuvres pieuses, pour les œuvres commerciales, pour les œuvres pieuses et commerciales à la fois, pour les arts, pour les sciences, pour le chant, la musique, pour les exercices spirituels, pour les exercices physiques, pour se réunir tout simplement, pour se divertir ensemble. Il y avait des vereins de quartiers, de corporations. Il y en avait pour ceux qui avaient le même état, le même chiffre de fortune, qui pesaient le même poids, qui portaient le même prénom. On disait qu'on avait voulu former un verein des Vereinlosen, de ceux qui n'appartenaient à aucun verein. On n'en avait pas trouvé 12. Sous ce triple corset de la ville, de la caste et de l'association, l'âme était ficelée. Une contrainte cachée comprimait les caractères. La plupart y étaient faits depuis l'enfance, depuis des siècles, et ils la trouvaient saine. Ils eussent jugé malséant et malsain de se passer de corset. À voir leur sourire satisfait, nul ne se fût douté de la gêne qu'ils pouvaient éprouver. Mais la nature prenait sa revanche. De loin en loin, sortait de là quelque individualité révoltée, un vigoureux artiste ou un penseur sans frein, qui brisait brutalement ses liens et qui donnait du fil à retordre aux gardiens de la cité. Ils étaient si intelligents que, quand le révolté n'avait pas été étouffé dans l'œuf, quand il était le plus fort, jamais ils ne s'obstinaient à le combattre. Le combat eût risqué d'amener des éclats scandaleux. Ils l'accaparaient. Peintre, il le mettait au musée. Penseur, dans les bibliothèques. Il avait beau s'époumoner à dire des énormités, ils affectaient de ne pas l'entendre. En vain protestait-il de son indépendance, il se l'incorporait. Ainsi, l'effet du poison était neutralisé. C'était le traitement par l'homéopathie. Mais ces cas étaient rares. La plupart des révoltes n'arrivaient pas aujourd'hui. Ces paisibles maisons renfermaient des tragédies inconnues. Il arrivait qu'un de leurs hôtes s'en alla, de son pas tranquille, sans explication, se jeter dans le fleuve. Ou bien l'on s'enfermait pour 6 mois, on enfermait sa femme dans une maison de santé afin de se curer l'esprit. On en parlait sans gêne, comme d'une chose naturelle, avec cette placidité qui était un des beaux faits de la ville et qu'on savait garder vis-à-vis de la souffrance et de la mort. Cette solide bourgeoisie, sévère pour elle-même parce qu'elle savait son prix, l'était moins pour les autres parce qu'elle les estimait moins. À l'égard des étrangers qui séjournaient dans la ville, comme Christophe, des professeurs allemands, des réfugiés politiques, elle se montrait même assez libérale, car il lui était indifférent. Au reste, elle aimait l'intelligence. Les idées avancées ne l'inquiétaient point. Elle savait que sur ses fils, elle resterait sans effet. Elle témoignait à ses hôtes une bonhomie glacée qui les tenait à distance. Christophe n'avait pas besoin qu'on insistât. Il se trouvait dans un état de sensibilité frémissante où son cœur était à nu. Il n'était que trop disposé à voir partout l'égoïsme, l'indifférence et à se replier sur soi. De plus, la clientèle de Brown, le cercle fort restreint auquel appartenait sa femme, faisait partie d'un petit monde protestant particulièrement rigoriste. Christophe y était doublement mal vu, comme papiste d'origine et comme incroyant de fait. De son côté, il y trouvait beaucoup de choses qui le choquaient. Il avait beau ne plus croire, il portait la marque séculaire de son catholicisme, moins raisonné que poétique, indulgent à la nature, et qui ne se tourmentait pas tant d'expliquer ou de comprendre que d'aimer ou de n'aimer point. Et il portait aussi les habitudes de liberté intellectuelle et morale qu'il avait, sans le savoir, ramassées à Paris. Il devait fatalement se heurter à ce petit monde piétiste où s'accusaient avec exagération les défauts d'esprit du calvinisme. Un rationalisme religieux qui coupait les ailes de la foi et la laissait ensuite suspendue sur l'abîme, car il partait d'un a priori aussi discutable que tous les mysticismes. Ce n'était plus de la poésie, ce n'était pas de la prose, c'était de la poésie mise en prose. Un orgueil intellectuel, une foi absolue, dangereuse en la raison, en leur raison. Il pouvait ne pas croire en Dieu ni à l'immortalité, mais il croyait à la raison comme un catholique croit au pape ou un fétichiste à son idole. Il ne leur venait même pas à l'idée de la discuter. Manque de psychologie, incompréhension de la nature des forces cachées, des racines de l'être, de l'esprit de la terre. Il se fabriquait une vie et des êtres enfantins, simplifiés, schématiques. Certains d'entre eux étaient gens instruits et pratiques. Ils avaient beaucoup lu, beaucoup vu. Mais ils ne voyaient, ni ne lisaient aucune chose comme elle était. Ils s'en faisaient des réductions abstraites. Ils étaient pauvres de sang. Ils avaient de hautes qualités morales, mais ils n'étaient pas assez humains. Et c'est le péché suprême. Leur pureté de cœur, très réelle souvent, noble et naïve, parfois comique, devenait malheureusement, en certains cas, tragique. Elle les menait à la dureté vis-à-vis des autres, à une inhumanité tranquille, sans colère, sûre de soi, qui effarait. Comment eussent-ils hésité? N'avaient-ils pas la vérité, le droit, la vertu avec eux? N'en recevaient-ils pas la révélation directe de leur sainte raison? La raison est un soleil dur. Il éclaire, mais il aveugle. Dans cette lumière sèche, sans vapeur et sans ombre, les âmes poussent décolorées, le sang de leur cœur est bu. Or, si quelque chose était en ce moment, pour Christophe, vide de sens, c'était la raison. Ce soleil-là n'éclairait à ses yeux que les parois de l'abîme, sans lui montrer les moyens d'en sortir, sans même lui permettre d'en mesurer le fond. Quant au monde artistique, Christophe avait peu l'occasion et encore moins le désir de frayer avec lui. Les musiciens étaient en général d'honnêtes conservateurs de l'époque néo-schumannienne et brahmine, contre laquelle Christophe avait jadis rompu des lances. Deux faisaient exception, l'organiste Krebs, qui tenait une confiserie renommée, brave homme, bon musicien, qu'il eût été davantage, si pour reprendre le mot d'un de ses compatriotes, il n'eût été assis sur un pégase auquel il donnait trop d'avoine, et un jeune compositeur juif, talent original, plein de sève vigoureuse et trouble, qui faisait le commerce d'articles suisses, sculptures en bois, chalets et ours de Berne. Plus indépendants que les autres, sans doute parce qu'ils ne faisaient pas de leur art un métier, ils eussent été bien aises de se rapprocher de Christophe. Et en un autre temps, Christophe eût été curieux de les connaître. Mais à ce moment de sa vie, toute curiosité artistique et humaine était émoussée en lui. Il sentait plus ce qui le séparait des hommes que ce qui l'unissait à eux. Son seul ami, le confident de ses pensées, était le fleuve qui traversait la ville. Le même fleuve, puissant et paternel, qui, là-haut, dans le nord, baignait sa ville natale. Christophe retrouvait auprès de lui les souvenirs de ses rêves d'enfance. Mais dans le deuil qui l'enveloppait, il prenait comme le Rhin une teinte funèbre. À la tombée du jour, appuyé sur le parapet d'un quai, il regardait le fleuve fiévreux, cette masse en fusion, lourde, opaque et hâtive, qui était toujours passée, où l'on ne distinguait rien que de grands crêpes mouvants, des milliers de ruisseaux de courants, de tourbillons qui se dessinaient, s'effaçaient, tel un chaos d'images dans une pensée hallucinée. Éternellement elles s'ébauchent et se fondent éternellement. Sur ce songe crépusculaire glissaient comme des cercueils, des bacs fantomatiques, sans une forme humaine. La nuit s'épaississait, le fleuve devenait de bronze. Les lumières de la rive faisaient luire son armure d'un noir d'encre qui jetait ses éclairs sombres. Reflets cuivrés du gaz, reflets lunaires des fanaux électriques, reflets sanglants des bougies derrière les vitres des maisons. Le murmure du fleuve remplissait les ténèbres. Éternel bruissement, plus triste que la mer par sa monotonie. Christophe aspirait, des heures, ce chant de mort et d'ennui. Il avait peine à s'en arracher. Il remontait ensuite au logis par les ruelles escarpées aux marches rouges, usées dans le milieu. Le corps et l'âme accablés, il s'accrochait aux rampes de fer, scellées au mur, luisantes, qu'éclairait le réverbère d'en haut sur la place déserte devant l'église vêtue de nuit. Il ne comprenait plus pourquoi les hommes vivaient. Quand il se souvenait des luttes dont il avait été le témoin, il admirait amèrement cette humanité avec sa foi chevillée au corps. Les idées succédaient aux idées opposées, les réactions aux actions. Démocratie, aristocratie, socialisme, individualisme, romantisme, classicisme, progrès, tradition, et ainsi pour l'éternité. Chaque génération nouvelle, brûlée en moins de 10 ans, croyait avec le même entrain être seule arrivée au fait et faisait dégringoler ses prédécesseurs à coups de pierre. Elle s'agitait, criait, se décernait le pouvoir et la gloire, dégringolait sous les pierres des nouveaux arrivants, disparaissait. À qui le tour ? La création musicale n'était plus un refuge pour Christophe. Elle était intermittente, désordonnée, sans but. Écrire ? Pour qui écrire ? Pour les âmes ? Il passait par une crise de misanthropie aiguë. Pour lui, il sentait trop la vanité de l'art, incapable de combler le vide de la mort. Seule sa force aveugle le soulevait, par instant, d'une aile violente et retombait brisée. Il était une nuée d'orage qui gronde dans les ténèbres. Olivier disparut, rien ne restait, rien. Il s'acharnait contre tout ce qui avait rempli sa vie, contre les sentiments, contre les pensées qu'il avait cru partager avec le reste de l'humanité. Il lui semblait aujourd'hui qu'il avait été le jouet d'une illusion. Toute la vie sociale reposait sur un immense malentendu dont le langage était la source. Tu crois que ta pensée peut communiquer avec les autres pensées? Il n'y a le rapport qu'entre des mots. Tu dis et tu écoutes des mots. Pas un mot n'a le même sens dans deux bouches différentes. Et ce n'est rien encore. Pas un mot, pas un seul, n'a tout son sens dans la vie. Les mots débordent la réalité vécue. Tu dis amour et haine. Il n'y a pas d'amour, pas de haine, pas d'amis, pas d'ennemis, pas de foi, pas de passion, pas de bien, pas de mal. Il n'y a que de froids reflets de ces lumières qui tombent de soleil mort depuis des siècles. Des amis, il ne manque pas de gens qui revendiquent ce nom. Quelle fade réalité! Qu'est-ce que leur amitié? Qu'est-ce que l'amitié, au sens du monde ordinaire? Combien de minutes de sa vie, celui qui se croit un ami, donne-t-il au pâle souvenir de l'ami? Que lui sacrifierait-il, non pas même de son nécessaire, mais de son superflu, de son oisiveté, de son ennui? Qu'ai-je sacrifié à Olivier? Car Christophe ne s'acceptait point. Il acceptait Olivier seul du néant où il englobait tous les êtres humains. L'art n'est pas plus vrai que l'amour. Quelle place tient-il réellement dans la vie? De quel amour l'aime-t-il, ceux qui s'en disent épris? La pauvreté des sentiments humains est inconcevable. En dehors de l'instinct de l'espèce, de cette force cosmique qui est le levier du monde, rien n'existe qu'une poussière d'émotions. La plupart des hommes n'ont pas assez de vie pour se donner tout entier dans aucune passion. Ils s'économisent avec une prudente ladrerie. Ils sont de tout un peu et ne sont tout à fait de rien. Celui qui se donne sans compter, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il souffre, dans tout ce qu'il aime, dans tout ce qu'il est, celui-là est un prodige, le plus grand qu'il soit accordé de rencontrer sur terre. La passion est comme le génie, un miracle. Autant dire qu'elle n'existe pas. Ainsi pensait Christophe, et la vie s'apprêtait à lui infliger un terrible démenti. Le miracle est partout, comme le feu dans la pierre, un choc le fait jaillir. Nous ne soupçonnons pas les démons qui dorment en nous. Pero non mi destar de parla basso. Un soir que Christophe improvisait au piano, Anna se leva et sortit, comme elle faisait souvent, lorsque Christophe jouait. Il semblait que la musique l'ennuyât. Christophe n'y prenait plus garde. Il était indifférent à ce qu'elle pouvait penser. Il continua de jouer. Puis, des idées lui venant qu'il désirait noter, il s'interrompit et courut chercher dans sa chambre les papiers dont il avait besoin. Comme il ouvrait la porte de la pièce voisine et, tête baissée, se jetait dans l'obscurité, il se heurta violemment contre un corps immobile et debout à l'entrée. Anna. Le choc et la surprise arrachèrent un cri à la jeune femme. Christophe, craignant de lui avoir fait mal, lui prit affectueusement les deux mains. Les mains étaient glacées. Elles semblaient grelotter, sans doute de saisissement. Elle murmura une explication vague. « Je cherchais dans la salle à manger. » Il n'entendit pas ce qu'elle cherchait, et peut-être qu'elle ne l'avait point dit. Il lui parut singulier qu'elle se promena sans lumière pour chercher quelque chose. Mais il était si habitué aux allures bizarres d'Anna qu'il n'y prêta pas attention. Une heure après, il était revenu dans le petit salon où il passait la soirée avec Brown et Anna. Il était assis devant la table, sous la lampe, et il écrivait. Anna, au bout de la table, à droite, cousait, penchée sur son ouvrage. Derrière eux, dans un fauteuil bas, près du feu, Brown lisait une revue. Ils se taisaient tous trois. On entendait par intermittence le trottinement de la pluie sur le sable du jardin. Pour s'isoler tout à fait, Christophe, assis de trois quarts, tournait le dos à Anna. En face de lui, au mur, une glace reflétait la table, la lampe et les deux figures baissées sur leur travail. Il sembla à Christophe que Anna le regardait. Il ne s'en inquiéta point d'abord. Puis, l'insistance de cette idée finissant par le gêner, il leva les yeux vers la glace, et il vit. Elle regardait, en effet. De quel regard ! Il en resta pétrifié, retenant son souffle, observant. Elle ne savait pas qu'il l'observait. La lumière de la lampe tombait sur sa figure pâle, dont le sérieux et le silence habituels avaient un caractère de violence concentrée. Ses yeux inconnus, qu'il n'avait jamais pu saisir, étaient fixés sur lui, bleu sombre, avec de larges prunelles, au regard brûlant et dur. Ils étaient attachés à lui, ils fouillaient en lui, avec une ardeur muette et obstinée. Ses yeux, se pouvait-il que ce fussent ses yeux, il les voyait, il n'y croyait pas. Les voyait-il vraiment? Il se retourna brusquement. Les yeux étaient baissés. Il essaya de lui parler, de la forcer à le regarder en face. L'impassible figure répondit, sans lever de son ouvrage, son regard irrité, sous l'ombre impénétrable des paupières bleuâtres, aux cils courts et serrés. Si Christophe n'avait été sûr de lui-même, il aurait cru qu'il avait été le jouet d'une illusion. Mais il savait ce qu'il avait vu. Cependant, son esprit étant repris par le travail, et Anna l'intéressant peu, cette étrange impression ne l'occupa point longtemps. Une semaine plus tard, il essayait au piano un lied qu'il venait de composer. Brown, qui avait la manie, par amour-propre de mari autant que par taquinerie, de tourmenter sa femme pour qu'elle chantât ou jouât, avait été particulièrement insistant ce soir-là. D'ordinaire, Anna se contentait de dire un non très sec. Après quoi, elle ne se donnait plus la peine de répondre aux demandes, prières ou plaisanteries. Elle serrait les lèvres et ne semblait pas entendre. Cette fois, au grand étonnement de Brown et de Christophe, elle plia son ouvrage, se leva et vint près du piano. Elle chanta ce morceau qu'elle n'avait jamais lu. Ce fut une sorte de miracle. Le miracle. Sa voix, d'un timbre profond, ne rappelait en rien la voix un peu rauque et voilée qu'elle avait en parlant. Fermement posée dès la première note, sans une ombre de trouble, sans effort, elle donnait à la phrase musicale une grandeur émouvante et pure, et elle s'éleva à une violence de passion qui fit frémir Christophe, car elle lui parut la voix de son propre cœur. Il la regarda stupéfait, tandis qu'elle chantait, et il la vit pour la première fois. Il vit ses yeux obscurs, où s'allumait une lueur de sauvagerie, sa grande bouche passionnée aux lèvres bien ourlées, le sourire voluptueux, un peu lourd et cruel, de ses dents saines et blanches, ses belles et fortes mains dont l'une s'appuyait sur le pupitre du piano, et la robuste charpente d'un corps étriqué par la toilette, amaigri par une vie trop réduite, mais qu'on devinait jeune, vigoureux et harmonieux. Elle cessa de chanter et alla se rasseoir, les mains posées sur ses genoux. Brown la complimenta, mais il trouvait qu'elle avait chanté sans moelleux. Christophe ne lui dit rien. Il la contemplait. Elle souriait vaguement, sachant qu'il la regardait. Il y eut ce soir-là un grand silence entre eux. Elle se rendait compte qu'elle venait de s'élever au-dessus d'elle-même, ou peut-être qu'elle avait été elle pour la première fois. Elle ignorait pourquoi. À partir de ce jour, Christophe se mit à observer attentivement Anna. Elle était retombée dans son mutisme, sa froide indifférence et sa rage de travail, qui agaçaient jusqu'à son mari, et où elle endormait les pensées obscures de sa trouble nature. Christophe avait beau la guetter, il ne retrouvait plus en elle que la bourgeoise guindée des premiers temps. À des moments, elle restait absorbée, sans rien faire, les yeux fixes. On la quittait ainsi, on la retrouvait ainsi, un quart d'heure après. Elle n'avait point bougé. Quand son mari lui demandait à quoi elle pensait, elle s'éveillait de sa torpeur, souriait, et disait qu'elle ne pensait à rien. Et elle ne disait rien. Rien n'était capable de la faire sortir de sa tranquillité. Un jour qu'elle faisait sa toilette, sa lampe à alcool éclata. En un instant, Anna fut entourée de flammes. La domestique s'enfuit en hurlant au secours. Brown perdit la tête, s'agita, poussa des cris et faillit se trouver mal. Anna arracha les agrafes de son peignoir, fit couler de ses hanches sa jupe qui commençait à brûler et la mit sous ses pieds. Quand Christophe accourut affolé avec une carafe qu'il avait stupidement saisie, il vit Anna montée sur une chaise, en jupon et les bras nus, qui sans trouble éteignait les rideaux en feu avec sa main. Elle se brûla, n'en parla point, et parut seulement dépitée qu'on l'eût vue en ce costume. Elle rougit, se cacha gauchement les épaules avec ses bras, et s'enfuit d'un air de dignité offensée dans la chambre voisine. Christophe admira son calme, mais il n'aurait pu dire si ce calme prouvait plus son courage ou son insensibilité. Il penchait pour la dernière explication. En vérité, cette femme semblait ne s'intéresser à rien, ni aux autres, ni à elle. Christophe doutait qu'elle eût un cœur. Il n'eut plus aucun doute après un fait dont il fut le témoin. Anna avait une petite chienne noire, aux yeux intelligents et doux, qui était l'enfant gâté de la maison. Brown l'adorait. Christophe la prenait chez lui quand il s'enfermait dans sa chambre pour travailler, et, la porte close, au lieu de travailler, souvent il s'amusait avec elle. Lorsqu'il sortait, elle était là, sur le seuil, guettant et s'attachant à ses pas, car il lui fallait un compagnon de promenade. Elle courait devant lui, tricotant de ses quatre pattes qui grattaient la terre si vite qu'elle semblait voltiger. De temps en temps, elle s'arrêtait, fière de son agilité, et elle le regardait, la poitrine en avant, bien cambrée. Elle faisait l'importante, elle aboyait furieusement à un morceau de bois, mais dès qu'elle apercevait au loin un autre chien, elle détalait et se réfugiait, tremblante, entre les jambes de Christophe. Christophe s'en moquait et l'aimait. Depuis qu'il s'éloignait des hommes, il se sentait plus rapproché des bêtes. Il les trouvait pitoyables. Ces pauvres animaux, lorsqu'on est bon pour eux, s'abandonnent à vous avec tant de confiance. L'homme est si absolument le maître de leur vie et de leur mort que s'il maltraite ces faibles qui lui sont livrés, il commet un abus de pouvoir odieux. Si aimante que la gentille bête fût pour vous, elle avait une préférence marquée pour Anna. Celle-ci ne faisait rien pour l'attirer. Mais elle la caressait volontiers, la laissait se blottir sur ses genoux, veillait à sa nourriture et paraissait l'aimer autant qu'elle était capable d'aimer. Un jour, la chienne ne sut pas se garer des roues d'une automobile. Elle fut écrasée, presque sous les yeux de ses maîtres. Elle vivait encore et criait lamentablement. Brown courut hors de la maison nu-tête. Il ramassa la loque sanglante et il tâchait au moins de soulager ses souffrances. Anna vint, regarda sans se baisser, fit une moue dégoûtée et s'en alla. Brown, les larmes aux yeux, assistait à l'agonie du petit être. Christophe se promenait à grands pas dans le jardin et crispait les poings. Il entendit Anna qui donnait tranquillement des ordres à la domestique. Il lui dit « Cela ne vous fait donc rien, à vous ?» Elle répondit « On n'y peut rien, n'est-ce pas ? C'est mieux de n'y pas penser. » Il se sentit de la haine pour elle. Puis le burlesque de la réponse le frappa et il rit. Il se disait qu'Anna devrait bien lui donner sa recette pour ne pas penser aux choses tristes, et que la vie était aisée à ceux qui ont la chance d'être dénués de cœur. Il songea que si Brown mourait, Anna n'en serait guère troublée, et il se félicita de n'être point marié. Sa solitude lui semblait moins triste que cette chaîne d'habitude qui vous attache pour la vie à un être pour qui vous êtes un objet de haine, ou, bien pire, pour qui vous n'êtes rien. Décidément, cette femme n'aimait personne. Le piétisme l'avait desséchée. Elle surprit Christophe un jour de la fin d'octobre. Ils étaient à table. Ils causaient avec Christophe d'un crime passionnel dont toute la ville était occupée. Dans la campagne, deux filles italiennes, deux sœurs, s'étaient éprises du même homme. Ne pouvant ni l'une ni l'autre se sacrifier de plein gré, Elles avaient joué au sort qui des deux céderait la place. La vaincue devait se jeter dans le Rhin. Mais quand le sort eut parlé, celle qui n'avait pas été favorisée montra peu d'empressement à accepter la décision. L'autre fut révoltée par un tel manque de foi. Des injures on en vint au cou, même au coup de couteau. Puis brusquement le vent tourna, on s'embrassa en pleurant, on jura qu'on ne pourrait vivre l'une sans l'autre. Et comme on ne pouvait cependant pas se résigner à partager le galant, on décida de le tuer. Ainsi fut fait. Une nuit, les deux amoureuses firent venir dans leur chambre l'amant enorgueilli de sa double bonne fortune. Et tandis que l'une le liait passionnément de ses bras, l'autre passionnément le poignardait dans le dos. Ses cris furent entendus. On vint, on l'arracha en assez piteux état à l'étreinte de ses amis, et on les arrêta. Elles protestaient que cela ne regardait personne, qu'elles étaient seules intéressées dans l'affaire, et que du moment qu'elles étaient d'accord pour se débarrasser de ce qui était à elles, nul n'avait à s'en mêler. La victime n'était pas loin d'approuver ce raisonnement, mais la justice ne le comprit point, et Brown pas davantage. « Elles sont folles, disait-il, folles alliées. Il faut les enfermer dans un hospice d'aliénés. Je comprends qu'on se tue par amour. Je comprends même qu'on tue celui ou celle qu'on aime et qui vous trompe. C'est-à-dire, je ne l'excuse pas, mais je l'admets comme un reste d'atavisme féroce. C'est barbare, mais logique, on tue qui vous fait souffrir. Mais tuer ce qu'on aime, sans rancune, sans haine, simplement parce que d'autres l'aiment, c'est de la démence. Tu comprends cela, Christophe ? Peuh, fit Christophe. Je suis habitué à ne pas comprendre. Qui dit amour dit déraison. Anna, qui se taisait sans paraître écoutée, leva la tête et dit de sa voix calme, « Il n'y a là rien de déraisonnable. C'est tout naturel. Quand on aime, on veut détruire ce qu'on aime, afin que personne d'autre ne puisse l'avoir. » Brown regarda sa femme stupéfait. Il frappa sur la table, se croisa les bras et dit, « Où a-t-elle été pêchée cela ? « Comment ? Il faut que tu dises ton mot, toi ? Qu'est-ce que diable tu en sais ?» Anna rougit légèrement et se tut. Brown reprit, « Quand on aime, on veut détruire ? Voilà une monstrueuse sottise. Détruire ce qui vous est cher, c'est se détruire soi-même. Mais tout au contraire, quand on aime, le sentiment naturel est de faire du bien à qui vous fait du bien, de le choyer, de le défendre, d'être bon pour lui, d'être bon pour toute chose. » Aimer, c'est le paradis sur terre. » Anna, les yeux fixés dans l'ombre, le laissa parler et, secouant la tête, elle dit froidement, « On n'est pas bon quand on aime. » Christophe ne renouvelait pas l'épreuve d'entendre chanter Anna. Il craignait une désillusion, ou quoi, il n'eût pas su le dire. Anna avait la même crainte. Elle évitait de se trouver dans le salon quand il commençait à jouer. Mais un soir de novembre qu'il lisait auprès du feu, il vit Anna assise, son ouvrage sur ses genoux, et plongée dans une de ses songeries. Elle regardait le vide, et Christophe crut voir passer dans son regard des lueurs de l'ardeur étrange de l'autre soir. Il ferma son livre. Elle se sentit observée et se remit à coudre. Sous ses paupières baissées, elle voyait toujours tout. Il se leva et dit « Venez ». Elle fixa sur lui ses yeux, où flottait encore un peu de trouble. Comprit et le suivit. « Où allez-vous ? » demanda Brown. « Au piano, » répondit Christophe. Il joua, elle chanta. Aussitôt, il la retrouva telle qu'elle lui était apparue une première fois. Elle entrait de plein pied dans ce monde héroïque comme s'il était le sien. Il continua l'expérience, prenant un second morceau, puis un troisième, plus emporté, déchaînant en elle le troupeau des passions, l'exaltant, s'exaltant. Puis, arrivé au paroxysme, il s'arrêta net et lui demanda, les yeux dans les yeux, « Mais enfin, qui êtes-vous ? » Anna répondit, « Je ne sais pas. » Il dit brutalement, « Qu'est-ce que vous avez dans le cœur pour chanter ainsi ?» Elle répondit, « J'ai ce que vous me faites chanter. »« Oui, eh bien, il n'y est pas déplacé. Je me demande si c'est moi qui l'ai créé ou si c'est vous. Vous pensez donc les choses comme cela, vous ? » ?»« Je ne sais pas. Je crois qu'on est plus soi quand on chante. » Et moi, je crois que c'est alors seulement que vous êtes vous. » Ils se turent. Elle avait les joues moites d'une légère buée. Son sein se soulevait en silence. Elle fixait la lumière des flambeaux et grattait machinalement la bougie qui avait coulé sur le rebord du chandelier. Il tapotait les touches en la regardant. Ils se dirent encore quelques mots gênés d'un ton rude, puis essayèrent des paroles banales, et se turent tout à fait, craignant d'approfondir. Le lendemain, ils se parlèrent à peine. Ils se regardaient à la dérobée avec une sorte de peur. Mais ils prirent l'habitude de faire, le soir, de la musique ensemble. Ils en firent même bientôt dans l'après-midi, et chaque jour davantage. Toujours la même passion incompréhensible s'emparait d'elle dès les premiers accords, la brûlait de la tête aux pieds et faisait de cette bourgeoise piétiste, pour le temps que durait la musique, une Vénus impérieuse, l'incarnation de toutes les fureurs de l'âme. Brown, étonné de l'engouement subi d'Anna pour le chant, n'avait pas pris la peine de chercher l'explication de ce caprice de femme. Il assistait à ses petits concerts, marquait la mesure avec sa tête, donnait son avis et était parfaitement heureux, quoiqu'il eût préféré une musique plus douce. Cette dépense de force lui paraissait exagérée. Christophe respirait dans l'air un danger, mais la tête lui tournait. Affaibli par la crise qu'il venait de traverser, il ne résistait pas. Il perdait conscience de ce qui se passait en lui, et il ne voulait pas savoir ce qui se passait dans Anna. Une après-midi, au milieu d'un morceau, débordant d'ardeur frénétique, elle s'interrompit et, sans explication, elle sortit de la pièce. Christophe l'attendit. Elle ne reparut plus. Une demi-heure après, comme il passait dans le corridor près de la chambre d'Anna, par la porte entr'ouverte, il l'aperçut au fond, absorbée dans les prières mornes, la figure glacée. Cependant, un peu, très peu de confiance, s'insinuait entre eux. Il tâchait de la faire parler de son passé. Elle ne disait que des choses banales. À grand-peine, il lui arrachait morceau par morceau quelques détails précis. Grâce à la bonhomie, facilement indiscrète de Brown, il réussit à entrevoir le secret de sa vie. Elle était née dans la ville. De son nom de famille, elle s'appelait Anna Maria Senfl. Son père, Martin Senfl, appartenait à une vieille maison de marchands, séculaire et millionnaire, où l'orgueil de caste et le rigorisme religieux étaient montés en graines. D'esprit aventureux, il avait, comme beaucoup de ses compatriotes, passé plusieurs années au loin, en Orient, en Amérique du Sud. Il avait même fait des explorations hardies au centre de l'Asie, où le poussaient à la fois les intérêts commerciaux de sa maison, l'amour de la science et son propre plaisir. À rouler à travers le monde, non seulement il n'avait pas amassé mousse, mais il s'était défait de celle qui le couvrait, de tous ses vieux préjugés. Si bien que de retour au pays, étant de tempérament chaud et d'esprit entêté, il épousa, aux protestations indignées des siens, la fille d'un fermier des environs, de réputation douteuse, qu'il avait commencé par prendre comme maîtresse. Ce mariage avait été le seul moyen qu'il eût trouvé pour garder à soi cette belle fille dont il ne pouvait plus se passer. La famille, après avoir mis vainement son veto, se ferma tout entière à celui qui méconnaissait son autorité sacro-sainte. La ville, tout ce qui comptait, se montrant comme d'habitude solidaire pour ce qui touchait à la dignité morale de la communauté, prit parti en masse contre le couple imprudent. L'explorateur apprit à ses dépens qu'il n'y a pas moins de péril à contrecarrer les préjugés des gens, au pays des sectateurs du Christ, que chez ceux du grand lama. Il n'était pas assez fort pour pouvoir se passer de l'opinion du monde. Il avait plus qu'entamé sa portion de fortune. Il ne trouva d'emploi nulle part. Tout lui était fermé. Il s'usa en colères inutiles contre les avanies de la ville implacable. Sa santé, minée par les excès et par les fièvres, n'y résista point. Il mourut d'un coup de sang 5 mois après le mariage. 4 mois plus tard, sa femme, bonne personne, mais faible et de peu de cervelle, qui depuis ses noces n'avait passé aucun jour sans pleurer, mourait en couche, jetant sur la rive qu'elle quittait la petite Anna. La mère de Martin vivait. Elle n'avait rien pardonné, même sur le lit de mort, à son fils, ni à celle qu'elle n'avait pas voulu reconnaître pour sa bru. Mais quand celle-ci ne fut plus, la vengeance divine étant assouvie, elle prit l'enfant et la garda. C'était une femme d'une dévotion étroite. Riche et avare, elle tenait un magasin de soierie dans une rue sombre de la vieille ville. Elle traita la fille de son fils moins comme sa petite fille que comme une orpheline qu'on recueille par charité et qui vous doit en échange une demi-domesticité. Pourtant, elle lui fit donner une éducation soignée. mais elle ne se départit jamais envers elle d'une rigueur méfiante. Il semblait qu'elle considérât l'enfant comme coupable du péché de ses parents et qu'elle s'acharnât à poursuivre le péché en elle. Elle ne lui permit aucune distraction. Elle traquait la nature comme un crime dans ses gestes, ses paroles, jusque dans ses pensées. Elle tua la joie de cette jeune vie. Anna fut habituée de bonne heure à s'ennuyer au temple et à ne pas le montrer. Elle fut environnée des terreurs de l'enfer. Ses yeux d'enfant aux paupières sournoises les voyaient chaque dimanche à la porte du vieux Münster, sous la forme des statues immodestes et contorsionnées qu'un feu brûle entre les jambes et sur qui montent le long des cuisses des crapauds et des serpents. Elle s'accoutuma à refouler ses instincts, à se mentir à elle-même. Dès qu'elle fut d'âge à aider sa grand-mère, elle fut employée du matin au soir dans l'obscur magasin. Elle prit les habitudes qui régnaient autour d'elle, cet esprit d'ordre, d'économie morose, de privations inutiles, cette indifférence ennuyée, cette conception méprisante et maussade de la vie, conséquence naturelle des croyances religieuses chez ceux qui ne sont pas naturellement religieux. Elle s'absorba dans la dévotion au point de paraître exagérée même à la vieille femme. Elle abusait des jeûnes et des macérations. Pendant un certain temps, elle s'avisa de porter un corset garni d'épingles qui s'enfonçait dans la chair à chaque mouvement. On la voyait pâlir, on ne savait ce qu'elle avait. À la fin, comme elle défaillait, on fit venir un médecin. Elle refusa de se laisser examiner. Elle fut morte plutôt que de se déshabiller devant un homme. Mais elle avoua, et le médecin fit une scène si violente qu'elle promit de ne plus recommencer. La grand-mère, pour plus de sûreté, soumit dès lors sa toilette à des inspections. Anna ne trouvait pas à ses tortures, comme on aurait pu croire, une jouissance mystique. Elle avait peu d'imagination. Elle n'eût compris la poésie d'un François d'Assise ou d'une Sainte Thérèse. Sa dévotion était triste et matérielle. Quand elle se persécutait, ce n'était pas pour les avantages qu'elle en entendait dans la vie future, c'était par un ennui cruel qui se retournait contre elle, trouvant un plaisir presque méchant au mal qu'elle se faisait. Par une exception singulière, cet esprit dur et froid, comme celui de l'aïeul, souffrait à la musique sans qu'elle sût jusqu'à quelle profondeur. Elle était fermée aux autres arts. Elle n'avait peut-être jamais regardé un tableau, elle semblait n'avoir aucun sens de la beauté plastique, tant elle manquait de goût par indifférence orgueilleuse. L'idée d'un beau corps n'éveillait en elle que l'idée de la nudité, c'est-à-dire, comme chez le paysan dont parle Tolstoï, un sentiment de répugnance. Ce dégoût était d'autant plus fort chez Anna qu'elle percevait obscurément dans ses rapports avec les êtres qui lui plaisaient le sourd aiguillon du désir, beaucoup plus que la tranquille impression de jugements esthétiques. Elle ne se doutait pas plus de sa beauté que de la force de ses instincts refoulés. Ou plutôt, elle ne voulait pas le savoir, et, avec l'habitude du mensonge intérieur, elle réussissait à se donner le change. Brown la rencontra à un dîner de mariage où elle se trouvait d'une façon exceptionnelle, car on ne l'invitait guère à cause de la mauvaise réputation que continuait de lui faire l'indécence de son origine. Elle avait 22 ans. Il la remarqua. Ce n'était point qu'elle cherchât à se faire remarquer. Assise à côté de lui à table, raide et mal fagotée, elle ouvrit à peine la bouche pour parler. Mais Brown, qui ne cessa de causer avec elle, c'est-à-dire tout seul, pendant tout le repas, revint enthousiasmé. Avec sa pénétration ordinaire, il avait été frappé de la candeur virginale de sa voisine. Il avait admiré son bon sens et son calme. Il appréciait aussi sa belle santé et les solides qualités de ménagère qu'elle paraissait avoir. Il fit visite à la grand-mère, revint, fit sa demande et fut agréé. Point de dot, Madame Senfle léguait à la ville, pour des missions commerciales, la fortune de sa maison. À aucun moment la jeune fille n'avait eu d'amour pour son mari. C'était là une pensée dont il ne lui semblait pas qu'il dût être question dans une vie honnête, et qu'il fallait plutôt écarter comme coupable. Mais elle savait le prix de la bonté de Brown. Elle lui était reconnaissante, sans le lui montrer, de ce qu'il l'avait épousée malgré son origine douteuse. Elle avait d'ailleurs un fort sentiment de l'honneur conjugal. Depuis 7 ans qu'ils étaient mariés, rien n'avait troublé leur union. Ils vivaient l'un à côté de l'autre, ne se comprenaient point, et ne s'en inquiétaient point. Ils étaient aux yeux du monde le type de ménage modèle. Ils sortaient peu de chez eux. Brown avait une clientèle assez nombreuse, mais il n'avait pas réussi à y faire agréer sa femme. Elle ne plaisait point, et la tache de sa naissance n'était pas encore tout à fait effacée. Anna, de son côté, ne faisait nul effort pour être admise. Elle gardait rancune des dédains qui avaient attristé son enfance. Puis elle était gênée dans le monde et ne se plaignait pas qu'on l'oubliât. Elle faisait et recevait les visites indispensables qu'exigeait l'intérêt de son mari. Les visiteuses étaient de petites bourgeoises curieuses et médisantes. Leur commérage n'avait aucun intérêt pour Anna. Elle ne prenait pas la peine de dissimuler son indifférence. Cela ne se pardonne point. Aussi, les visites s'espaçaient et Anna restait seule. C'était ce qu'elle voulait. Rien ne venait plus troubler le rêve qu'elle ruminait et le bourdonnement obscur de sa chair.